La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers pour cette dernière émission de la semaine. On va discuter de l'actualité locale pendant une demi-heure et aujourd'hui c'est Léo qui nous parle d'armes nucléaires puisqu'il s'est entretenu avec Annick Martin du mouvement de la paix d'Angers, notamment de l'entrée en vigueur il y a quelques jours du traité d'interdiction de ces armes nucléaires. Vous retrouverez donc une présentation de l'association, le bilan du rassemblement qui s'était tenu les 22 et 23 janvier dernier devant la préfecture pour informer la population sur ce traité, ainsi qu'une discussion plus générale autour des armes nucléaires en France et dans le monde. Et je vous propose qu'on démarre sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
Le 22 et 23 janvier dernier, une dizaine de personnes, membres du mouvement de la paix d'Angers, se réunissaient devant la préfecture du Maine-et-Loire, à Angers. L'objet de ce rassemblement marquait l'entrée en vigueur du traité d'interdiction des armes nucléaires, que nous appellerons le TIAN au cours de cet entretien. Il s'agit d'un document contraignant, c'est-à-dire que les signataires s'engagent à respecter son contenu. On va parler de ce traité, revenir sur les différents textes qui ont tendu à réduire la prolifération nucléaire, c'est-à-dire un État qui acquiert l'arme ou un État qui se dote de plus d'armes nucléaires qu'il en possède déjà, avec Annick Martin, présidente du mouvement de la paix d'Angers. Bonjour Annick.
Oui, bonjour. Alors, présidente, c'est beaucoup. J'essaye de faire une coordination avec les militants, voilà, pour organiser nos actions, nos formations. C'est plutôt un travail d'équipe.
Le mouvement de la paix est une organisation non gouvernementale, créée en 1948, 3 ans après l'utilisation de l'arme nucléaire à Hiroshima puis Nagasaki en août 1945. L'ONG agit pour le désarmement, en particulier nucléaire, la diminution de la production et les transferts d'armement, et enfin la réduction des budgets militaires. Il y a environ 150 comités en France. C'est un petit tableau qu'on peut dresser à l'échelle nationale. Du côté d'Angers, qu'est-ce que ça donne ?
C'est vrai que sur le comité d'Angers, nous avons beaucoup travaillé avec un militant comme Michel Verger, qui a travaillé avec les mairies, les élus locaux, beaucoup, pour faire signer l'appel des maires d'Hiroshima, qui ne voulait plus que la bombe nucléaire existe. Et lui-même, c'est un militant de la paix qui a été victime des essais nucléaires. Il a réussi à faire signer cet appel du maire d'Hiroshima. Donc 223 maires de Maine-et-Loire et il y avait à peu près donc à l'époque plus de 80% des maires qui avaient signé cet appel du maire d'Hiroshima qui disait plus jamais ça. C'est une longue histoire dans notre département avec une association aussi, l'association des victimes des essais nucléaires avant que ces victimes ne meurent, pour avoir une indemnisation et une aide souvent médicale très lourde.
Et ça fait longtemps que toi, personnellement, tu es membre de cette association. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager pour cette cause globale du désarmement ?
Quand je suis arrivée près de l'âge de la retraite, je cherchais une activité voilà, de bénévole. Et c'est le mouvement de la paix qui a rassemblé toutes les caractéristiques voilà que j'ai pu avoir et les actions que j'ai pu mener dans ma vie. Et c'est vrai que les premières actions de militantisme que j'ai pu faire à 18 ans, c'était contre la guerre au Vietnam. On distribuait sous le manteau, dans les boîtes aux lettres, des appels à la paix aux citoyens. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, il y a eu l'appel des 100, des grandes actions contre les SS-20 et les Pershing. Ça a été un petit peu le fil conducteur avec cette éducation à la paix qu'on n'a pas. On parle toujours de guerre, on parle de violence, on parle pas de la paix à l'école, dans l'enseignement, en formation continue. Et c'est ce qui m'a motivée à à venir bénévoles.
Pour rappel, les fameux missiles Pershing et SS-20, c'était à la fin des années 80 en Europe, des missiles en fait qui avaient été installés par l'Union soviétique. Et en réaction à cette installation, les Américains avaient installé donc les missiles Pershing, faisant craindre en tout cas à une escalade militaire qui aurait pu déboucher sur à nouveau la guerre en Europe.
Tout à fait, tout à fait. Et là, on entend un peu parler parce que le 5 février, donc cette semaine, expire le traité qu'on appelle New Start, qui vient remplacer un peu tous les traités. Ce traité New Start, c'était un traité clé pour le désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie, qui avait une durée de 10 ans. Comme il a été signé en 2010, et donc là, il arrive au terme, à son terme, le 5 février prochain, et il faut qu'il soit reconduit par les États-Unis et par la Russie pour une durée de 5 ans pour empêcher ces armes de continuer à se menacer. Bon, le président Trump s'était retiré de ce traité de réduction des armes stratégiques nucléaires. Et là, Joe Biden a réaffirmé, et donc Poutine aussi pour la Russie, qu'il voulait que ce traité soit renouvelé et prolongé 5 ans.
Je le disais en présentant le mouvement de la paix, c'est un réseau national de 150 comités, avec des jeunes qui s'engagent, on peut le signaler. En 2000, il y avait 128 jeunes qui s'étaient rendus à l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. En 2002, à Marseille, vous aviez organisé une rencontre internationale autour de la thématique de la culture de la paix et d'autres rencontres similaires en 2011. Quelle est la place des jeunes dans le mouvement de la paix? Vous nous avez parlé il y a quelques instants de promotion de la culture de la paix à l'école. Est-ce que les jeunes qui militent dans les mouvements de la paix, ils sont porteurs de nouvelles idées, ou le but, c'est plus simplement de former la nouvelle génération de militantes et militants à la culture de la paix?
C'est vrai que c'est un mouvement de la jeunesse qui a été très très porté en 2019 sur ce slogan « un climat de paix ». Hein, les jeunes sont très attachés à la planète et il y avait une vraie convergence, si bien que à la Journée internationale de la paix, donc le 21 septembre de chaque année, le 21 septembre 2019, nous étions 1100 à manifester cet intérêt pour un climat de paix. Alors autant sur les objectifs du climat et de développement durable que sur ces objectifs de paix et notamment de désarmement nucléaire.
On va revenir à présent sur le rassemblement que vous aviez organisé à Angers les 22 et 23 janvier. L'objectif, je le rappelle, c'était d'alerter la population sur la date d'entrée en vigueur du traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN. Il a été construit à l'ONU, une cinquantaine d'États l'ont aujourd'hui ratifié, s'engageant ainsi à respecter son contenu. Concrètement, Annick, qu'est-ce qu'il contient, ce traité?
Ce traité est très important, d'une part pour notre sécurité humaine, mais pour faire en sorte que les pays qui détiennent l'arme nucléaire s'en séparent, l'éliminent, mais c'est aussi important pour tous les autres pays qui n'ont pas l'arme nucléaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 138 pays qui sont partie prenante du TIAN, mais ces 138 pays qui le portent vraiment ne vont plus accepter que 9 pays détiennent l'arme nucléaire, parce qu'elle est vraiment rentrée dans l'illégalité et elle devient illégitime. Et ce traité va faire que les 9 pays qui la détiennent doivent l'éliminer. Ça va pas être si facile que ça, hein, pour nous en France, d'aller sur ce désarmement nucléaire, d'aller sur le gel du programme de modernisation, parce que la France a investi dans un programme de modernisation de l'arme nucléaire. Elle a même doublé son budget dans la loi de programmation militaire aujourd'hui. Et donc, ça va être pour nous, en tout cas français, très difficile à faire en sorte que ce budget s'arrête et que la décision soit prise d'aller sur l'élimination de l'arme nucléaire. C'est pour ça qu'on était devant la préfecture le 22 janvier pour dire justement à l'État, attention, maintenant vous êtes dans l'illégalité, cette arme nucléaire était légitime et 6 milliards et demi qui sont dépensés tous les ans pour moderniser l'arme ne sert à rien. Il faut geler ces budgets pour arriver à éliminer plutôt l'arme nucléaire.
Il y a eu d'autres rassemblements organisés simultanément par les autres comités du mouvement de la paix ailleurs en France ?
Une cinquantaine de villes en France qui ont eu la même démarche que nous.
Et il y a d'autres actions prévues à l'avenir de ce type ou vous avez d'autres moyens d'action pour arriver à sensibiliser la population aux causes que vous défendez ?
Aujourd'hui, les parlementaires ont un rapport quand même hein, sur le commerce des armes, sur la loi de programmation militaire. Mais c'est quand même ce sont des dossiers secret défense qui ont du mal à être discutés. On sensibilise d'un côté les parlementaires pour qu'ils arrivent à faire en sorte que la France s'engage sur la ratification de ce TIAN. Donc ça c'est une première action. Et puis la deuxième action, c'est d'aller vers les citoyens. Parce qu'on a fait un sondage avec IFOP et puis avec le journal La Croix et le journal Planète Paix où 78% des Français veulent voir cette modernisation de l'arme nucléaire s'arrêter, hein, se dire on a besoin de faire autre chose. Et puis que la France s'engage vraiment sur ce processus d'élimination totale et contrôlée de l'arme atomique. C'est pour ça qu'on était place du ralliement le 23 et qu'on y retournera régulièrement pour alerter la population. Alors, alerter la population sur les dangers, mais aussi alerter sur les entreprises, les banques qui investissent aussi dans l'arme nucléaire. Une action aussi vers les universitaires. Donc là, il y a eu un appel dans le journal Le Monde pour alerter et dire que la recherche, donc la recherche fondamentale, s'arrête sur le développement de l'arme nucléaire et au contraire aille sur d'autres recherches plus utiles pour la société et le bien-être de nos citoyens.
Et justement, on va clôturer cet entretien avec une petite discussion autour de la place du nucléaire militaire en France. De façon générale, dans le pays, vous l'avez rappelé il y a un instant, il est assez délicat de parler du commerce d'armes et des conflits. C'est un sujet un peu tabou, car l'État exporte énormément d'armes. La France est le troisième exportateur mondial d'armes dans le monde. 8% des exportations totales d'armes derrière les États-Unis et la Russie. Elle s'implique également largement au Mali, elle soutient le général Haftar en Libye, etc. Quel regard vous portez sur le commerce d'armement de la part des autorités françaises et de son implication dans divers conflits ?
Alors pour nous, le commerce des armes est vraiment tenu secret, c'est pour ça qu'on en parle aussi avec les parlementaires, parce que le commerce des armes, c'est pas un commerce de marchandises comme une autre marchandise. On a eu beaucoup d'actions vis-à-vis du commerce des armes parce qu'on voyait le dégât humain qui était fait, par exemple, au Yémen. Sur le Yémen, il y a eu des citoyens qui se sont mobilisés contre le commerce des armes. Il y a eu aussi des embargos dans les ports pour dire non, les cargos les cargos en France, hein, ne doivent pas charger des conteneurs d'armes pour aller combattre la population au Yémen. Pour bien comprendre tout ce commerce des armes, eh bien, il y a eu quatre documentaires, une série sur France 5, sur comment s'est fait la guerre en Irak et comment elle a amené à fabriquer Daesh. Et là, je crois que voilà tout le résumé. Il est fait quand on regarde ces quatre documentaires.
Pour préparer cet entretien, je me suis rendu sur le site Vie Publique, qui est un site de vulgarisation en fait des pouvoirs publics pour expliquer un petit peu des grands textes de loi, leur but, et en l'occurrence concernant le Tian, les autorités françaises avancent trois arguments pour expliquer que la France ne ratifierait pas le traité, et je vais les citer. C'est un texte jugé inadapté au contexte sécuritaire international marqué par la résurgence de menaces d'emploi de la force. Le Tian s'adresse uniquement aux démocraties occidentales. Il ne servira pas le désarmement car aucun État en possession de la bombe nucléaire ne le signera. Et enfin, ils estiment que cela fragilise l'approche d'un désarmement étape par étape. Comment est-ce que vous recevez ces arguments ?
C'est vrai que aujourd'hui, quand a été négocié ce traité, la France a fait du chantage avec les pays européens qui étaient prêts à signer et à ratifier ce traité, a fait du chantage à l'aide au développement aux pays africains. On revient toujours à cette suprématie nationale en France qui voudrait que ces 9 États qui possèdent l'arme nucléaire dirigent tous les autres États du monde, ils sont 193, donc ils sont quand même en nombre beaucoup plus important. En 2020, il devait y avoir une conférence sur le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire. Ça veut dire que la France, qui a signé ce traité de non-prolifération, elle s'appuie aussi là-dessus pour dire « mais on a diminué notre arme nucléaire ». Alors c'est vrai que dans le monde, il y en avait 45 000, il n'y en a plus que 16 000. Donc le traité de non-prolifération a bien eu un effet. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas aller maintenant sur l'interdiction. C'est-à-dire que les 9 pays qui l'ont, comment ils peuvent interdire à 185 pays à côté de ne pas l'avoir et eux puissent la conserver et voire même la moderniser? Est-ce que montrer ses gros bras en possédant l'arme nucléaire amène un climat de paix? Nous, on dit non. Au mouvement de la paix, on dit il faut prévenir les guerres, il faut négocier. Ces arguments de dire on l'a et on veut pas arrêter, la France, ça va pas tenir parce que, comme je disais tout à l'heure, voilà, 76% des Français sont contre les dépenses d'armement nucléaire et les deux tiers, 66%, veulent que la France ratifie ce traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas maintenir ces dépenses et en plus la moderniser. Donc la moderniser, ça veut dire la rendre miniature pour qu'elle soit indétectable. Donc la rendre plus légère, la rendre plus petite pour qu'elle aille plus vite, donc 5 fois la vitesse du mur du son. Et si on la rend indétectable, ça veut dire que la quarantaine d'accidents qu'on a pu arrêter à temps, là peut-être qu'on peut plus l'arrêter à temps. Donc c'est la moderniser, c'est pire que tout, puisque là elle devient un danger même par accident.
Donc d'après vous, le risque d'emploi de l'arme nucléaire, il est réel aujourd'hui? Vous voyez plus comme une vraie arme qui peut être utilisée à tout moment que comme un instrument de dissuasion qui fait que justement il y a une sorte d'équilibre des puissances dans la mesure où il y aurait uniquement 9 puissances nucléaires qui ne voudraient pas se séparer de la bombe. Pour autant, il y a d'autres puissances qui souhaiteraient se doter de l'arme nucléaire. Je pense par exemple à l'Iran et la Corée du Nord qui a fini par y accéder. Et donc finalement, voilà, ce serait un petit peu, vous ne pensez pas que ce serait mettre en péril cet équilibre des puissances?
Un équilibre, ça veut dire que chacun est sur le même plateau de la balance à équiter. Et ce n'est pas le cas. Et nous, en Europe, on a, oui, un vrai danger nucléaire. Parce que c'est là où elles sont, les armes nucléaires. C'est difficile, certainement, pour dire, le Royaume-Uni, la France doit arrêter, geler sa modernisation et éliminer l'arme nucléaire, parce que c'est un pouvoir qu'ils se sont donné en tant qu'État et en tant que pays, alors que cette dissuasion, elle devrait être discutée au niveau des parlements de chacun des pays et aussi au niveau de l'Europe. Donc c'est ça qui est dommageable, parce que si on mettait ça sur la place publique, on irait sur le désarmement. Que la France ratifie ou ne ratifie pas, en tout cas, la volonté, c'est de enlever cette arme nucléaire. C'est ce qui est ressorti un petit peu que Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, n'y croyait pas. Il a dit qu'il savait qu'il ne pourrait jamais appuyer sur le bouton nucléaire, parce que il savait que ce serait la fin de la France. Chacun sait qu'il va pas l'utiliser, donc alors pourquoi ne pas l'éliminer?
On va y venir. Alors le mouvement de la paix porte la voie du désarmement nucléaire en France, mais on l'a rappelé tous les deux au cours de cet entretien, il y a 8 autres États qui possèdent l'arme nucléaire: les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Dans ce cas, ça demande de prendre en compte certains éléments. Aucune puissance nucléaire n'a signé le TIAN. Les États-Unis et la Chine, vous l'avez rappelé, sont en train de moderniser leur armement. L'Inde et le Pakistan l'augmentent. La Corée du Nord en a fait une priorité de sa sécurité nationale. Et donc face à cela, quel intérêt aurait la France à se désarmer, ou à défaut, comment pourrait-on envisager un processus de désarmement nucléaire collectif qui se déroule dans la confiance?
Toute la contradiction qui peut exister par rapport à ces arguments, c'est-à-dire que quelque part le monde a envie d'avoir des relations multilatérales, voilà, qui aillent bien, et si on perd la confiance, ne serait-ce que par ces armes nucléaires, ça veut dire que la confiance générale va être perdue. Et on le voit bien, quand il y a un bien commun tel que le vaccin du Covid, comment ça se passe? Donc c'est celui qui paye le plus fort qui a ce bien commun. Et là, c'est pareil pour cette arme. C'est là que la démocratie doit avoir toute sa puissance. Et on peut pas être en contradiction en disant je veux d'un côté pouvoir faire un sommet du G7, hein, des 7 puissances les plus importantes dans le monde, et puis d'un autre côté dire du chacun pour soi, et on n'arrivera pas à désarmer tant que l'autre n'a pas désarmé. Donc il faut qu'ils le fassent en commun. C'est-à-dire que s'ils arrivent à faire ce G9 pour dire on arrête de moderniser l'arme nucléaire, on se met d'accord sur une date pour geler cette modernisation et arriver à l'éliminer avec l'aide des contrôles tels que l'AIEA aujourd'hui, qu'ils puissent faire en sorte que chacun s'entend pour arrêter de s'attendre, parce que autrement on peut attendre longtemps qu'il y en ait un qui commence. Ce qui est dommage, c'est quand même que ces crédits-là, que ça soit en Inde ou au Pakistan, ne servent pas à la population et au bien-être de la population. Donc là, on est plutôt dans une escalade pour faire toujours plus et toujours mieux, et avoir encore plus de dangers pour la planète et l'humanité. Il faudrait pouvoir faire un G9 des pays nucléarisés et faire ce programme de gel et d'élimination de l'arme nucléaire. Et au moins que l'Europe puisse aussi le faire pour que les pays qui l'ont puissent geler et éliminer, mais aussi que les bases américaines de l'OTAN qui possèdent de l'arme nucléaire en Italie, en Espagne, au niveau de la Belgique, de l'Allemagne, de la Pologne, puissent retirer ces armes nucléaires. Sinon, la Russie, la Chine n'arrêteront pas.
Vous nous aviez parlé d'un sondage commandé par le mouvement de la paix en 2018, en partenariat avec La Croix, Planète Paix, et réalisé par l'IFOP, intitulé « Les Français, les dépenses militaires et l'élimination des armes atomiques ». Et il y a une proposition qui a retenu mon attention. À la question « Vous, personnellement, êtes-vous favorable ou pas favorable à ce que la France, donc a complété, élimine les armes atomiques ?» Alors c'était 76% « Oui » en 2018, vous l'avez rappelé. Interviennent à l'étranger dans le cadre des Nations Unies, oui à 70%, et modernisent des armes atomiques, 44% oui, donc ça reste minoritaire, mais en hausse par rapport aux mesures que vous aviez effectuées en 2010 et 2012. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire ?
Oui, c'est vrai que c'est contradictoire, hein, parce que quand on a fait l'analyse des résultats du sondage, on s'est vraiment posé la question. Le contexte avait changé, et notamment par le terrorisme en 2015. Donc on pense que c'est ce contexte-là qui a pu faire changer le pourcentage et les avis des personnes qui ont été interviewées. C'est vrai que c'était ambigu cette réponse, mais on l'explique plutôt par le contexte politique qui avait changé entre-temps et le Moyen et Proche-Orient qui était en guerre avec des opérations extérieures importantes.
Très bien. Eh bien, écoutez, Annick, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était très complet comme entretien. On a pu vraiment parler de beaucoup de choses. En attendant, le mouvement de la paix à Angers reste actif et va continuer, évidemment, à surveiller, notamment, on en a parlé, la reprise de négociations pour renouveler le traité START entre les États-Unis et la Russie, afin de réduire encore leur part d'armement atomique, puisque, je le rappelle, ce sont eux qui possèdent encore le plus d'armes atomiques prêtes à l'emploi. Encore merci, Annick, d'avoir répondu à nos questions, et à très bientôt.
Merci.
Un grand merci à Léo pour cette interview. Et quant à nous, on se quitte en musique avec un morceau tout frais issu de la Selecta de notre programmateur. C'est Hour After Hour de Megan.
Lucy went down the stairs and onto the metro in search for a mate. A handsome dark man with long hair who smells like a shake. She wore black jeans, a t-shirt, a raincoat and bangs. A few drinks in a cab and they went up to her place. Please tell me now, why on earth is the door so straight? Hour after hour we communicate. My projection on the wall looks so great. Now open your mouth and swallow it. I was woken up by the great fart of her young. A weird Swedish girl in leather jacket and presumably straight. In the back of my head, Ethiopian music played. Until my girl woke up some 2 hours later. Please tell me now, why on earth is the door so straight? Hour after hour we disintegrate. My projection on her wall looks so great. Now open your mouth and swallow it. So great.